Bonjour à tous et bienvenue sur l'Odyssée d'Asie, le podcast pour découvrir l'Asie. Je m'appelle Brison Nuffel et je vous parle depuis Hanoï au Vietnam. Sur ce podcast, vous l'aurez compris, on va parler d'Asie, à travers des voyages, à travers des interviews ou à travers des conseils. Je vais vous expliquer pourquoi Taïwan est une destination incontournable, je vais vous partager les 5 erreurs que font la plupart des voyageurs avant un voyage au Vietnam, et je vais vous présenter des gens qui vivent en Asie et qui sont particulièrement inspirants.
Surtout s'ils me donnent de l'argent.
Pour rappel, je m'appelle Brice Van Nuffel, je tiens le blog worldwildbrice.net et je vis en Asie depuis 2013. Donc si vous êtes un fan d'Asie ou si vous voulez préparer un voyage en Asie, vous êtes arrivé au bon endroit. Ce que je vous conseille, c'est de monter dans le train, de bien vous installer et de profiter du podcast. Aujourd'hui, un épisode très particulier puisqu'on va parler de la réalité de tenir un blog de voyage sur l'Asie. Donc on va parler argent, ouais je sais que c'est pour ça que vous avez cliqué, on va parler insultes, on va parler partenariat. Je vais vous donner les chiffres de mon blog de voyage à moi, je vais tout vous expliquer sur son profil. Donc quand je dis les chiffres, je vais vous donner combien d'argent je gagne. Je vais essayer de rester compréhensible, ça c'est un point essentiel, ça va être un podcast assez technique parfois. Donc je vais essayer de rester très clair. Mais il y a forcément une ou deux fois dans le podcast où vous allez peut-être un peu décrocher. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Pour que ça reste compréhensible dans l'ensemble, je vais diviser ce podcast en pas mal de parties. Donc pour les connaisseurs, on va avoir plusieurs arrêts du train. Le premier point, je vais vous parler de mon blog et de qu'est-ce que c'est très rapidement. Je vais vous expliquer le quotidien d'un blogueur de voyage, donc combien de temps ça prend d'avoir un blog de voyage, comment on fait de l'argent avec un blog en général, combien mon blog à moi me rapporte tous les ans. À quoi ça sert un blog de voyage si ce n'est pas pour l'argent? Parce qu'il y a pas mal de blogs de voyage qui ne le font pas pour l'argent. Et je vais vous parler d'un projet que je pensais génial et pour lequel je me suis fait démonter dans les commentaires. Et je vais même vous lire des commentaires, vous allez voir, c'est assez drôle. Gardez à l'esprit que ce podcast, j'ai dû l'enregistrer plusieurs fois. En fait, les premières fois, soit je parlais trop vite, soit c'était très compliqué à comprendre, très difficile. Donc dans ce podcast, je vais essayer de rester clair. Je vais éviter d'aller trop dans les détails parce que sinon ça devient trop compliqué à écouter. Honnêtement, on a presque l'impression d'avoir un cours de maths au lycée. Il faut vraiment se concentrer et ce n'est pas vraiment le but d'un podcast. Donc, je vais essayer d'expliquer pas mal de choses. Normalement, ça restera clair et surtout, si vous aimez ce genre de podcast, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est un peu une nouveauté. On continue de parler de voyage, on continue de parler de tourisme en Asie, mais on parle d'un... Disons qu'on prend un axe complètement différent et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous appréciez et qu'il faudrait peut-être plus intégrer dans la saison 2 du podcast. Voilà, j'ai assez parlé, c'était une introduction assez longue mais nécessaire et je crois que c'est le premier arrêt du train qui arrive bientôt. Premier arrêt, mon blog de voyage. Vous aurez remarqué une chose assez drôle, mais j'ai dit que j'allais parler plus doucement et en fait sur la fin de l'introduction, je parlais de plus en plus vite. Et oui, chasser le naturel, il revient au galop. Alors pour ceux qui ne connaissent pas mon blog de voyage, puisqu'il y a pas mal d'auditeurs du podcast qui ne sont pas forcément fans du blog, mon blog s'appelle worldwildbrice.net. Avant le Covid, c'était 400 000 visiteurs uniques à l'année, donc gardez en tête plus de 1000 personnes par jour. Une grosse position sur le Vietnam et sur la Birmanie. Quand je dis grosse position, ce sont des positions sur Google, donc le référencement. Lorsque vous tapez et vous cherchez des informations sur Google en tapant peut-être « quoi manger au Vietnam », bah là vous tombez sur mon blog. Quoi faire à Hanoï, vous tombez sur mon blog. C'est le nerf de la guerre en fait pour les blogs. Donc pour le Vietnam et la Birmanie, j'ai des positions très importantes, c'est-à-dire sur de nombreux sujets, de nombreuses questions, je ressors dans les premiers résultats. Et j'ai aussi de bons résultats sur l'Inde, le Sri Lanka, la Chine, le Japon. Pas forcément sur tout le Japon, mais sur quelques besoins particuliers. Par exemple, si vous tapez Japon 2 semaines budget, vous allez tomber sur mon blog. Si vous tapez pour l'Inde, quoi faire à Jaipur ou quoi penser de Jaipur, vous allez tomber sur mon blog. Quel avis sur Singapour, vous allez tomber sur mon blog. Bref, pas mal de choses comme ça, un peu éparpillées sur l'Asie. J'ai 6000 fans sur Facebook, j'ai 2000 fans sur Instagram. En revanche, rien sur TikTok, rien sur YouTube, c'est important à savoir. En quelques mots, le blog, c'est énorme sur l'Asie, mais l'Asie seulement. Je ne suis pas un blog sur le monde entier. Pas de spécialisation sur un pays. Je ne suis pas le blog à consulter si vous voyagez au Japon ou si vous voyagez en Thaïlande. Moi, je suis bon. Surtout, mais pas excellent sur un pays. Gardez ça en tête, c'est aussi important. J'écris un article par semaine minimum qui est publié tous les dimanches avec des articles remplis de photos qui font entre 2000 et 6000 mots. Donc 2000 et 6000 mots, c'est l'équivalent de 6 à 17 pages Word. Oui, j'ai regardé avant pour me rendre compte à peu près combien ça donnait. Donc c'est pas mal de textes. J'ai aucun article du type « Ces 10 régions vont vous impressionner, voici les exemples ». Et je fais plutôt des articles qui vont être genre « 2 jours à Kanto, une très belle région du delta du Mékong ». Donc je fais très peu d'articles putaclic entre guillemets. Je partage très peu ma vie sur les réseaux sociaux. Je fais pas de choses comme « Oh là là, regardez ce que j'ai mangé à midi. Oh là là, il pleut dans la rue, regardez. Oh là là, les Vietnamiens, ils sont sales ». Je fais pas trop ce genre de trucs. Je parle principalement de mes voyages et très peu de ma vie réelle quand je suis chez moi tout simplement. J'espère que pour ceux qui connaissent pas le blog, vous avez maintenant une meilleure idée et on va passer sur le quotidien d'un blogueur.
Et si tu connais pas le blog, n'hésite pas à t'abonner, à le regarder tous les jours, il est vraiment trop bien.
Le quotidien d'un blogueur, c'est assez important d'expliquer puisqu'il y a pas mal de gens qui vont penser soit qu'on vit dans des hôtels de malades et qu'on fait des croisières tout le long, ou soit qu'on est des gens avec des poux et des cheveux longs sur une plage de Thaïlande. Le blog, pour moi, c'est mon hobby numéro un. J'y passe des heures toutes les semaines. Toutes mes pauses le midi sont passées à écrire pour le blog ou à préparer des publications. Imagine-toi, t'as sûrement un ami ou une amie qui est fan de course à pied, par exemple. Tous les matins, il court. Tous les soirs, il court. Le midi, il regarde des vidéos sur YouTube pour savoir comment mieux courir, comment mieux se préparer, comment mieux manger. Et ben moi, dans l'idée, c'est exactement la même chose, mais pour mon blog de voyage. Je sais pas combien de temps ça me prend en réalité toutes les semaines. Évidemment, j'ai pas un tracker et je pointe pas à chaque fois que j'ouvre le blog. Mais je dirais une dizaine d'heures par semaine, sauf quand je voyage évidemment. Quand je voyage, ça peut être zéro. Mais en général, une dizaine d'heures, donc à peu près 40 heures par mois, je pense que c'est une bonne idée. Pendant les voyages, ma façon de voyager est impactée par le blog, puisque je vais avoir envie de tout tester pour avoir des informations super importantes. Je vais vouloir garder toutes les informations. Je vous donne un exemple tout bête, mais si j'ai rencontré un guide qui est super pendant une randonnée, si j'écris un article en parlant de ce guide, c'est sûr et certain que les gens vont vouloir le contact de ce guide. Donc moi, je vais lui demander pendant la randonnée, comme ça je pourrais le mettre directement sur le blog. C'est la même chose pour les hôtels, c'est la même chose pour les restaurants. Je vais avoir tendance à tout mentionner sur mon Google Maps pour expliquer aux gens « Ah bah telle gargote au Vietnam, elle n'est pas sur Google Maps, mais si vous allez sur ce point GPS, et je donne les coordonnées GPS, les gens peuvent trouver la gargote facilement. » Ça peut paraître négatif, parce que ça change ma façon de voyager, mais c'est aussi souvent un coup de pied au cul pour être toujours actif, et ça j'adore. Parce que oui, en fait, je passe très peu de matinées en mode grasse mat, on fait rien, parce que moi j'ai toujours envie de tester les choses, j'ai toujours envie de découvrir, et ça a un gros impact sur mes voyages, parce que ça me donne encore plus d'énergie, et ça, j'adore. Le quotidien d'un blogueur, c'est aussi d'échanger avec sa communauté, d'échanger avec les gens. Il y a 99% de commentaires qui font sens, qui vont être gentils ou poser des questions qui sont à peu près logiques et auxquelles on peut apporter une réponse. Et il y a 1% des commentaires qui sont assez infâmes. Je vous cite le meilleur commentaire que j'ai jamais reçu sur le blog. Vous êtes prêts? Attention, ça dépote. J'aime pas du tout la façon que tu as de prendre des ethnies montagnards en photo. Ce ne sont ni des animaux, ni des trophées. Étant souvent sur les routes du Vietnam, si je te vois, je te casse les bras. Je passerai s'il le faut au bureau de ton employeur. Donc ça, c'est les commentaires qui mettent vraiment la patate. Il y a très peu de demandes bizarres, puisqu'en fait, les demandes bizarres ne sont que sur les articles bizarres. Hein. Il faut pas se le cacher. Si vous avez des articles qui parlent de trucs un peu chelous, genre le poker, la prostitution ou des aéroports, bah évidemment, vous allez attirer des gens aussi un peu bizarres. J'ai un bon exemple sur l'aéroport, mais en fait, je référençais très bien sur l'aéroport de Kuala Lumpur. Rappelez-vous, référencement, c'est à quel niveau vous apparaissez dans Google et si vous êtes en gros dans les 3 premiers résultats. Donc quand quelqu'un tapait « aéroport de Kuala Lumpur », il tombait sur mon article qui, je crois que le nom, c'était « aéroport de Kuala Lumpur, tout ce qu'il faut savoir pour je sais plus quoi ». Bref, c'était un titre un peu chelou. Et en fait, une fois par semaine, j'avais quelqu'un qui me demandait « Brice, j'arrive avec tel vol et je veux prendre le vol après » et il me donnait les horaires à chaque fois. « C'est bon, tu penses ?» Et bon, en fait, j'en avais aucune idée. Souvent, en plus, il y a 2 aéroports à Kuala Lumpur, donc il n'y avait aucun détail. Mais ça, toutes les semaines, j'avais 1 ou 2 commentaires minimum qui me posaient cette question. Donc, c'était assez drôle. Je vous ai assez parlé de mon blog. Je vous ai assez parlé du quotidien d'un blogueur. Rappelez-vous, une dizaine d'heures par semaine. En gros, des commentaires parfois négatifs, beaucoup de commentaires positifs. Maintenant, comment un blog fait de l'argent? Prochain arrêt, la thune. La thune, Brice, on veut les pépettes. Avant de vous expliquer combien d'argent fait mon blog, je pense qu'il est assez essentiel de partager comment un blog monétise son trafic, donc comment un blog génère de l'argent, puisqu'il y a pas mal de façons de générer de l'argent avec un blog. Dans l'idée, il y a 5 façons. Encore une fois, je vais essayer de rester clair. Encore une fois, je vais essayer de parler doucement. La première façon de monétiser son blog, c'est la plus importante généralement, ça s'appelle l'affiliation. souvent avec des hôtels, mais parfois avec des assurances internationales, des vols, ce genre de choses. L'affiliation, c'est tout simplement d'apporter du business à quelqu'un et donc de récupérer quelque chose en échange. C'est un truc vieux comme le monde, mais souvent sur Internet, c'est assez mal compris. L'affiliation, ça peut être un montant fixe. Par exemple, sur mon blog de voyage, je vais avoir le lien vers un site de location de voiture. À chaque fois que quelqu'un clique, le site de location de voiture va me donner 1 euro. S'il y a une réservation ou pas, on s'en fiche. C'est chaque clic, je récupère 1 euro. Ça, c'est quand même assez marginal. La plupart du temps, l'affiliation, on a en fait tout simplement un pourcentage sur les ventes. Donc là, un exemple avec mon blog de voyage. Je parle souvent d'hôtels et à chaque fois que je mets le nom d'un hôtel, je mets le lien vers booking.com. Donc booking.com, le site de réservation d'hôtel évidemment. Et ces liens sont des liens affiliés. Donc si quelqu'un vient sur mon blog, voit le nom de cet hôtel, clique sur cet hôtel puisqu'il a l'air intéressant et fait une réservation, Booking va me donner 1 à 2% du total de la réservation hors taxe. Donc si tu as tout compris, si quelqu'un réserve un dortoir au Vietnam pour une seule nuit pour une personne, ça va lui coûter 4 euros. Moi, je récupère 4 centimes d'euros. Donc avant de générer vraiment des revenus, il faut vendre des milliers et des milliers de nuits dans des guesthouses pourries et dans des dortoirs pourris. À l'opposé, si j'ai une famille de 4 personnes qui réserve donc 2 chambres et qui voyage aux Philippines et qui veut se réserver une semaine sur l'île de Bohol dans un bel hôtel, ils vont payer leur hôtel peut-être 2000 euros la semaine. Et donc là, je vais récupérer 20 euros. Donc là, c'est une somme vachement plus importante. Si vous vous demandez comment on voit si c'est de l'affiliation ou pas, en fait, c'est très simple. Lorsque vous réservez sur booking.com, généralement, ça s'appelle www.booking.com/le-nom-de-l'hôtel/. D'accord ? Ça, c'est un lien normal, classique, assez court. Lorsque vous faites de l'affiliation, ce lien va être le même, booking.com/nom-de-l'hôtel. Et après, vous allez souvent avoir un code, donc il va y avoir plein de numéros, plein de lettres, et à un moment, peut-être marqué AFL égale Worldwide Brice. Donc ça, en fait, c'est mon code affilié, et ça indique à booking.com que la personne qui vient sur le site vient de mon site à moi, d'accord ? D'ailleurs, c'est quelque chose que vous voyez absolument partout sur Internet, et si vous regardez sur des vidéos YouTube, généralement, les gens disent toujours « Cliquez sur le lien dans la description, j'ai tout mis dans la description, j'ai mis les informations dans la description ». En fait, les liens sont souvent des liens affiliés. Donc, ça fonctionne pour tout. Hein. Que quelqu'un fasse un test d'appareil photo et vous dise « Hey, achetez l'appareil photo directement avec le lien en dessous » parce qu'en fait, il va récupérer une petite commission. C'est la même chose pour le maquillage, c'est la même chose pour la jardinerie, c'est la même chose pour tout. C'est quelque chose de très, très commun sur Internet. La seconde façon de faire de l'argent sur Internet, c'est la publicité. D'accord ? Donc là, sur votre blog de voyage, vous allez mettre des encarts publicitaires. Ça peut être quelque chose d'assez discret, par exemple sur la droite avec un seul encart assez joli, vraiment petit, ou ça peut être de la publicité partout et même intégrer de la publicité dans l'article. Donc vous lisez l'article, vous avez quelques photos, du texte, vous scrollez un peu et là une pub. Vous continuez, encore d'autres photos, encore d'autres textes, encore des pubs. Donc là pour moi la publicité c'est quelque chose que je déteste quand je vois sur des sites internet puisque ces sites internet ressemblent beaucoup plus à des flippers qui a vraiment un blog de voyage qu'on a envie de lire. Et gardez à l'esprit que la publicité sur Internet paye très peu. Donc pour générer beaucoup d'argent avec un blog de voyage et de la publicité, il faut soit être sur une niche assez particulière, par exemple avoir un blog de voyage sur le luxe, et là les marques de luxe vont être prêtes à payer un peu plus que les marques grand public, ou alors avoir un trafic de malades. Donc vraiment des dizaines, des centaines de milliers de personnes tous les mois pour pouvoir générer quelques milliers, peut-être 1000 euros, un truc comme ça. D'accord ? Donc pour générer même pour un blog de voyage 300 à 400 euros par mois de pub, il faut déjà être très important. Donc ça, c'est la seconde façon de faire de l'argent sur Internet, assez connue d'ailleurs. La troisième façon de générer des revenus avec un blog de voyage, c'est quelque chose dont les gens ont beaucoup peur, que ce soit sur des blogs de voyage, sur des sites Internet ou même sur des vidéos YouTube. C'est les articles sponsorisés ou les vidéos sponsorisées. Là, c'est généralement que le site va vous parler d'un service qui n'a pas vraiment de sens quand tu compares avec le blog de voyage ou avec la timeline des articles. Je deviens un peu plus compliqué. Brice, calme-toi, parle doucement. On va prendre un exemple pour l'expliquer. Vous suivez un blog de voyage et il vous parle généralement de ses voyages logiquement. Il va vous dire « Ah, là, je suis allé au Japon pendant 2 semaines. » Donc, il va vous faire un premier article sur Tokyo, 3 jours à Tokyo. Il va vous faire un article sur Kyoto. « Waouh, j'ai découvert les temples de Kyoto, c'était magnifique. » Et puis là, au milieu du voyage, il va vous pondre un autre article qui va être quelque chose comme « Oh, regardez, un site d'impression de photos, quand on revient de voyage, on peut l'imprimer avec la marque en gros, avec la marque mentionnée de partout. » Donc là, généralement, c'est que le blogueur a été payé par la marque pour écrire cet article et pour mettre en avant la marque. Ça peut être parce que la marque espère que des clients vont acheter son produit, ou ça peut être simplement pour du référencement. Une petite idée du genre d'article qu'on peut voir sur certains blogs de voyage, des sites d'impression de photos, d'accord, ça c'est très commun, une trousse de toilette pour l'avion, des sacs isothermes en voyage, une application révolutionnaire, il peut y avoir pas mal de trucs comme ça sur des articles sponsorisés, c'est assez courant. On tombe en revanche rarement sur des choses qui n'ont aucun sens. Il y a toujours au moins un lien avec le blog de voyage, puisque le mec ne va pas vous dire, entre son voyage à Tokyo et Kyoto, il va pas vous dire « Ah oh bah regardez, ça c'est une très belle salle de bain, achetez-la !» Non, évidemment, il va essayer quand même de rester sur des articles qui pourraient intéresser un minimum les lecteurs de son blog de voyage. Toc, 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 c'est le contrôleur. Alors, en réécoutant le podcast et en faisant le montage après, je me rends compte que ça peut aussi être perçu négativement. Bien évidemment, il y a des articles sponsorisés qui sont normaux, c'est-à-dire que le blogueur a apprécié le produit et le partage réellement. Il faut simplement se méfier lorsque la personne vous écrit un article sponsorisé toutes les deux semaines et vous parle de son livre photo, de n'importe quel produit, de son maquillage, de telle compagnie qui est vraiment la meilleure. Faites bien attention à ça. Il y a des blogueurs VH qui vont écrire des articles sur un produit parce qu'ils apprécient ou parce qu'ils ont fait un partenariat. Mais évidemment, si vous envoyez 2-3 par mois, c'est probablement que ce blogueur voyage est très intéressé à l'idée de faire quelques centaines d'euros. Alors évidemment, le tarif pour ce genre d'article dépend du blog. Plus un blog est gros, plus il facture beaucoup. Logique, mais généralement aussi, plus un blog est gros, moins il est intéressé par faire des deals un peu dans l'ombre. Et normalement, légalement, on est obligé de mentionner lorsque c'est de la publicité. De nombreux blogs suivent cela, même de petits blogs, généralement tout le monde le dit. En revanche, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins dans la presse. Et oui, lorsque vous voyez dans des magazines en France, vol pour les Caraïbes à partir de 800 euros sur Air France, à côté des petites photos, ça c'est généralement qu'ils ont eu des vols gratuits, mais dans la presse, honnêtement, de mon expérience, ils mentionnent très rarement. Voilà, on repart au podcast. Quatrième point pour générer des revenus, et sûrement un des points qui se développe le plus dans les dernières années, c'est la vente de quelque chose sur son blog de voyage. Alors là, ça peut être des livres, ça peut être des photos, ça peut être des aquarelles. En fait, il y a beaucoup de blogueurs qui sont créatifs. Donc les blogueurs de voyage, ceux qui ont créé leur blog il y a une dizaine d'années, à l'époque, c'était juste une passion, hein, il n'y avait aucun moyen de faire de l'argent. Donc c'était des gens qui avaient juste envie d'exprimer leur créativité. Là, quand les blogueurs de voyage vendent des produits, le blog de voyage en fait sert de support de distribution. Il permet de toucher une communauté. Je vous prends quelques exemples. Novo Monde, c'est un excellent blog de voyage. C'est un couple très sympa franco-suisse et ils adorent faire de la randonnée. Donc, ils écrivent leurs articles sur des randonnées et puis à un moment, ils ont eu l'idée d'écrire des livres et ils ont écrit un livre qui s'appelle « Rando-bière ». Donc là, on mélange la randonnée et on mélange la dégustation de bière. Il y a plein d'itinéraires différents, ils donnent des dizaines de conseils et ce livre a très bien fonctionné et est parfaitement en rapport avec ce que veulent leurs lecteurs. Puisque si vous suivez leur blog, c'est sûrement que vous êtes peut-être un couple, que vous voyagez beaucoup en Europe, que vous aimez beaucoup la randonnée, des choses comme ça. Donc là, le livre fait parfaitement sens. Je vous prends un deuxième exemple avec un autre blog de voyage, Gaijin in Japan. C'est un blog 100% Japon. Donc lui, il parle que du Japon, que du Japon, que du Japon. Récemment, il s'est mis à proposer des box. Donc vous savez, à l'intérieur, vous avez des produits spécifiques à une préfecture. Alors une fois, ça va être sur... je sais pas moi, des ramen et comment cuisiner ces ramen. Une autre fois, ça va être des Kit Kat et une box spéciale Kit Kat ou confiserie. Une autre fois, ça va peut-être être sur une partie plus traditionnelle du Japon. Il va y avoir des couteaux, des kimonos, ce genre de choses. Sa communauté, c'est le Japon. Vendre des box sur le Japon, ça fait totalement sens. Pourquoi pas leur proposer ? Vous forcez personne, évidemment. Si les gens ont envie d'acheter, tant mieux. Si les gens n'ont pas envie d'acheter, tant pis. Je vous prends un dernier exemple qui est encore plus développé, peut-être encore plus gros. C'est One Day One Travel. Eux, ils ont beaucoup voyagé en Indonésie, ils adorent l'Indonésie, pardon, et ils ont eu l'idée de créer leur propre agence de voyage sur l'Indonésie. Donc, encore une fois, le blog là va servir un peu de diplôme pour confirmer, ok, eux, ils ont beaucoup voyagé en Indonésie, ils ont découvert Bali, ils ont découvert Sulawesi, ils ont découvert d'autres îles, ils adorent l'Indonésie, ils sont passionnés d'Indonésie, ils ont une agence de voyage sur l'Indonésie qu'ils viennent de créer. Ah bah génial, je vais passer par eux. Donc, vous voyez, le blog peut aussi être un support de distribution, un canal de distribution pour d'autres produits qui sont souvent vraiment en rapport avec ce que fait la personne, avec sa passion. Quand je vous ai parlé des articles sponsorisés précédemment, parfois ça n'avait aucun sens. ça apporte très peu de plus-value au lecteur. Là, c'est l'inverse. On force personne, mais si les gens sont des fans de ce que vous, vous appréciez aussi, il y a de grandes chances qu'ils veuillent aussi découvrir votre univers et découvrir ce que vous êtes en train de vendre grâce au blog. On passe au dernier point pour monétiser un blog, qui est demander de l'aide. Donc là, ça va être des sites comme M'offrir un café ou des Patreons. Alors, vous ne connaissez peut-être pas, mais en fait, Patreon, c'est un site où, en fonction de la cotisation que vont payer les lecteurs du blog, vous allez leur donner quelque chose en échange. Si, par exemple, vous donnez 10 euros par mois au blog, tous les mois, le blogueur voyage va vous renvoyer une carte postale avec un petit mot sympa. Si vous donnez 500 euros tous les mois au blog, là, il va vous renvoyer tous les mois 3 ou 4 photos imprimées de ses photos préférées. Ça dépend de combien d'argent vous donnez. Souvent, il y a quelque chose en échange, un petit quelque chose hein, si vous ne donnez pas beaucoup, un gros quelque chose si vous donnez beaucoup. Mais ça devient de plus en plus courant. Plutôt que de recourir à la publicité qui va massacrer le site, plutôt que de faire des articles qui n'ont aucun sens où vous allez parler de la trousse de toilette pour un avion et franchement, vous, bah, ça ne vous parle pas, pourquoi pas demander une très faible cotisation, demander un très faible don, demander aux gens d'aider le blog grâce à ça, et ça permet de générer quelques revenus, et ça se fait de plus en plus, plutôt que de transformer son site internet, son blog de voyage, en flipper avec des pubs de tous les côtés. C'est quelque chose qui devient de plus en plus courant. Toc, 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 c'est encore le contrôleur. Mais pourquoi du coup on parle pas des influenceurs? Parce que c'est ce qu'on voit tout le temps à la télé, les influenceurs. Là, tu nous parles que du blog de voyage? Vous aurez remarqué que pour l'instant, je n'ai pas encore mentionné le terme des influenceurs. Ici, dans ce podcast, on va principalement parler du blog de voyage. Donc, je ne vous parle pas de posts sponsorisés sur Instagram, de vidéos sur Facebook avec de la publicité, de vidéos sur YouTube. On ne parle pas non plus des influenceurs de la télé-réalité hein, qui vont juste vous vendre des produits merdiques. Pour les influenceurs de voyage, le plus gros, c'est Bruno Maltor. Je pense que pas mal doivent le connaître, même si lui déteste ce nom d'influenceur. Sachez pour moi que c'est plus des personnes qui sont multiplateformes. Donc Bruno, il a créé un blog au début, ensuite il s'est développé sur Instagram, il poste des vidéos qui sont presque des documentaires sur YouTube, beaucoup plus longs, il poste des vidéos beaucoup plus courtes et différentes pour TikTok, parce que c'est une audience différente. Donc là, en fait, l'influenceur voyage, généralement, c'est quelqu'un qui est sur beaucoup de plateformes. Le blog n'est qu'une partie de son monde, de sa communauté, et il y a d'autres choses, Instagram, TikTok, YouTube. Avant, il pouvait y avoir Twitter, maintenant Twitter, c'est un peu mort. Quel sera le prochain? On ne sait pas après TikTok, mais c'est important de faire cette différence. Dans ce podcast, on va surtout se focaliser sur le blog, parce que si je commence à vous parler de posts sur Instagram, de vidéos YouTube et de monétisation sur ces plateformes, on ne va jamais s'en sortir et ça ne sera pas clair du tout. Prochain arrêt, les partenariats. Si tu regardes trop la télévision, tu dois peut-être penser que les blogueurs de voyage reçoivent des demandes de partenariat tous les jours, qui sont invités partout, qui font des croisières, qui sont dans les hôtels tout le temps, qui mangent dans des restaurants gratuitement. Alors ça, c'est la réalité peut-être pour les gens de la télé-réalité justement, mais pour moi, les demandes de partenariat, c'est principalement des trucs qui sont nazes, d'accord ? Il y a peut-être 9 partenariats sur 10 qui n'ont aucun sens et c'est simplement des gens qui voudraient que je mette des liens vers des sites de poker, vers des sites à caractère, des sites pour les adultes, vous avez compris. Des gens qui veulent juste échanger des liens pour avoir un meilleur référencement, c'est des trucs auxquels tu réponds même pas. Il y en a une petite partie qui aurait sens si la personne qui s'occupe de ces partenariats avait d'abord lu le blog. Il faut bien que vous vous rendiez compte que souvent la personne qui gère les partenariats, c'est le stagiaire. Donc le stagiaire, on lui dit « Mec, tu fais la liste de tous les blogs qui existent, tu prends un classement X ou Y, et à chaque blog, tu envoies ta demande et tout le temps la même. » Donc je vous prends un exemple. Je vous adresse ce message dans l'optique d'obtenir un article sur votre site World Wide Breeze, moyennant un échange de visibilité ou un investissement de notre part. Qui sommes-nous? Et là, il donne le nom de la marque. Est une agence en ligne de location de voiliers, catamarans et péniches pour croisière depuis 1995. En 2019, nous proposions un catalogue de 18 000 bateaux à louer au départ de 82 destinations, blablabla. Évidemment, il ne couvre pas trop les pays sur lesquels je suis moi. Ça n'a pas vraiment de sens. Peut-être que si j'avais été en France et que je cherchais justement comment louer une péniche, ça aurait pu m'intéresser. Mais dans la plupart des cas, honnêtement, c'est des sites de réservation de voitures, de bateaux, ce genre de, ou des sites de réservation pour des vols. Donc pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Et ça, c'est des partenariats que je reçois beaucoup. Mais évidemment, j'y réponds jamais. C'est très, 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 très rare que je reçoive un partenariat intéressant. D'ailleurs, quand j'ai cherché, franchement, je pense qu'en 8 ans, j'ai dû recevoir moins de 5 des partenariats qui étaient parfaitement pour moi. Je vous prends un petit exemple. Hello Brice, Je me présente, je m'appelle Lila et je travaille chez Home Hostel, un backpacker hostel en plein centre de Taipei, la capitale de Taïwan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Taïwan, le troisième épisode du podcast était sur Taïwan. Je vous invite à aller l'écouter après celui-ci. L'auberge a été rénovée très récemment et elle dispose donc d'une salle commune et de chambres extrêmement modernes et cosy. Je te propose de jeter un coup d'œil à notre site. Nous étions invités à passer une semaine au sein de l'auberge qui dispose de chambres privées, en échange d'un article et de photos sur son blog et réseau social, blablabla. Ensuite, elle explique ce qu'est Home Hostel, l'intérêt que ça a, ce qu'ils font, pourquoi Taïwan c'est génial. Bref, une demande de partenariat qui est bien ciblée, puisque moi je suis un blog sur l'Asie, qui me propose déjà ce que eux attendent de moi, ce que moi je peux faire et qui sont ouverts à la discussion. Donc ça, c'est une demande de partenariat franchement quasiment parfaite et voire même parfaite. Là, si vous êtes déjà un lecteur du blog, vous savez pourtant que moi j'ai déjà été invité dans pas mal d'hôtels et qu'à chaque fois je dis « Ah bah là j'ai été invité gratuitement, j'ai fait un partenariat avec cet hôtel ou avec une croisière » et vous vous demandez peut-être comment ça se passe et si je vous ai menti. J'ai un peu bugué là, non ? Et si je vous ai menti, on la refait. En fait, quand je suis invité dans ces hôtels en partenariat, c'est moi qui les ai contactés. Donc ça m'a pris des plombes, il n'y a pas d'autre mot, ça prend des heures d'envoyer des mails, d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer ce qu'on souhaite faire, de négocier avec l'hôtel, parce que parfois il veut tout de suite, c'est assez rare, mais parfois il est là, ok, bah pas de problème, vous pouvez venir quand vous voulez, juste prévenez-moi à l'avance. Et souvent, ils vous disent, ah bah pourquoi je vous inviterai ? Donc là, il faut vous expliquer ce que vous avez fait auparavant, peut-être avoir des références, expliquer plein de choses, peut-être si vous devez fournir une ou deux photos, par exemple, ou expliquer ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux, ou expliquer votre référencement sur le delta du Mékong. Et du coup, vu que les gens, lorsqu'ils voyagent dans le delta du Mékong au Vietnam, ils regardent beaucoup mon blog, si je parle de ton hôtel, il y a quand même de fortes chances que ça t'apporte des réservations. Toc toc toc, c'est encore le contrôleur. Alors je veux juste expliquer un peu ce point. J'ai été en relation avec beaucoup de petits patrons. C'est-à-dire que moi, les hôtels qui m'intéressent, souvent, ce sont des petites structures. Et donc, quand un hôtel a 15 ou 20 chambres maximum, il n'a pas forcément un service marketing. C'est souvent le propriétaire qui fait un peu tout. Lorsque vous visez des plus gros hôtels de 80-100 chambres, des petites chaînes, là, évidemment, il y a quelqu'un au moins à la vente et au marketing. Mais sur les plus petits hôtels, bah, c'est le GM qui fait vraiment tout. J'avais été en contact pendant longtemps avec un de ces GM, un de ces propriétaires, et parfois, il m'envoyait des demandes de gratuité pour avoir mon avis. Alors, les gratuités, ça peut être des agences de voyage, ça peut être des professionnels du tourisme, ça peut être des blogueurs, ça peut être des youtubeurs. Et je vous prends deux exemples qui m'avaient assez marqué. Il a, par exemple, eu des demandes de gratuité de youtubeurs, sexologues et diététiciennes. C'était un petit groupe vietnamien. Quoi en penser ? Est-ce que vous les invitez ou pas ? Est-ce qu'ils sont assez gros ou pas ? Ils ne parlent pas du tourisme, mais ils ont beaucoup de fans sur leur page Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Est-ce que c'est intéressant ? Difficile à dire. Même chose, une demande de gratuité d'un blogueur brésilien. Comment savoir si cette personne est importante pour cet hôtel ? Comment savoir s'il y a beaucoup de Brésiliens qui viennent dans ce pays ? Donc c'est assez difficile à gérer. Il ne faut pas oublier que ces personnes sont seules pour gérer l'hôtel. Donc ils n'ont pas forcément le temps de passer une après-midi ou une journée complète à bien vérifier si c'est intéressant ou pas. C'est pour ça généralement qu'ils posent beaucoup de questions, parce qu'ils ont aussi beaucoup de demandes. Donc il faut bien expliquer et être très clair. Voilà, on repart au podcast. Sur le blog, il n'y a jamais un partenariat avec un hôtel qui coûte moins de 100 euros. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens de passer des heures à faire un partenariat pour être invité dans un hôtel à 15 euros, 20 euros. Quel est l'intérêt pour moi ? J'ai un travail, mon blog, c'est pas ma première source de revenus. Et franchement, si c'est un très bel hôtel comme, je vais prendre Tam Quoc Garden dans la baie d'Along Terrestre au Vietnam ou The Island Lodge dans le delta du Mekong, là, c'est des hôtels qui coûtent 150, 180 euros. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour moi de faire un partenariat parce que si je devais me le payer, c'est quand même vachement plus cher. Si c'est des hôtels pas chers, honnêtement, ça n'a aucun intérêt, puisque pour moi, j'ai un vrai travail et le blog, ce n'est pas ma source de revenus. D'ailleurs, je bosse les transitions. Vous êtes prêts pour le prochain arrêt ? C'est celui que vous attendez depuis longtemps. Mais combien d'argent ça te rapporte, le blog ? Tu vas le dire, oui ? Bon, je crois que le contrôleur est assez énervé, donc il faut que je vous donne quelques chiffres. Sachez que le blog, pour moi, n'a jamais été un objectif en termes de revenus. Parce que je pense qu'en fait, quand vous générez beaucoup d'argent avec votre blog, ça change votre blog, soit le blog en lui-même, soit la façon dont tu écris, la façon dont tu parles de certaines choses. Je n'ai jamais voulu faire de mon blog un métier, car j'ai fait une grande école. Donc c'est ce que vous voyez à la télé, comme on dit, « Oh, il a fait une grande école !» En fait, moi, je voulais surtout prioriser mon travail, celui avec un salaire, puisque j'avais un emprunt à rembourser. Oui, les grandes écoles, ça coûte une fortune, évidemment. Il a acheté son diplôme, ouh ! J'ai fait d'ailleurs, comment ça s'appelle maintenant ? Neoma Business School, donc Reims Management School à l'époque, sub de Corinth, pour ceux qui connaissent. Donc moi, je ne suis pas le meilleur exemple, pour générer des revenus grâce à son blog. J'ai jamais voulu générer beaucoup de revenus. Comme je pense vous l'avez bien compris pendant ce podcast, je suis pas la personne qui voulait faire de son site un flipper et mettre des pubs de partout. J'ai jamais écrit d'articles sponsorisés sur des chaussures pour de la randonnée, un sac à dos, ce genre de trucs. Donc je suis pas le meilleur exemple et il faut pas que vous généralisiez mes revenus avec ceux d'autres blogs. Je pense que des blogs qui font moins de trafic, peut-être même la moitié moins que moi, vont générer plus de revenus. Moi, j'ai deux sources de revenus sur le blog. Le premier, c'est la publicité. Pour les plus anciens, ceux qui lisaient le blog avant le Covid, j'avais une publicité pour l'agence Shanti Travel, qui est une agence de voyage en Asie. L'agence me payait $150 par mois pour la publicité, donc en gros 120 euros à l'époque. J'avais aussi des revenus grâce à l'affiliation. Alors là, évidemment, ça dépend, mais si vous vous rappelez bien, l'affiliation, c'est de prendre un pourcentage des hôtels. Je dirais que sur l'année, je gagne à peu près 2000 euros par an sur l'année. Logique, je commence à perdre mon français, désolé. Je gagne donc 2000 euros par an grâce à l'affiliation. Donc des gens qui vont cliquer sur des liens pour Booking ou pour Agoda, les deux sites de réservation, et qui vont faire leur réservation. Donc je vous ai dit, publicité 120 euros par mois, donc à peu près 1400 euros à l'année. Affiliation, 2000 euros à l'année, soit 3400 euros à l'année encore une fois. En sachant évidemment que ces revenus sont parfois aléatoires, la seconde année où j'étais en Birmanie, il y avait énormément de voyageurs qui venaient en Birmanie, donc là je devais plutôt être aux alentours de 4000 euros. En revanche, après la crise des Rohingyas, évidemment ça a beaucoup baissé puisqu'il y avait beaucoup moins de voyageurs qui venaient en Birmanie. Je pense que si j'avais voulu vraiment générer beaucoup d'argent et en faire le plus possible, j'aurais pu atteindre peut-être 6000 euros. Ça aurait était en, par exemple, en parlant d'une agence que moi, je ne connaissais pas. Parce que là, je mettais le lien, la bannière pour le site de Shanti Travel. Ils me payaient 120 euros par mois, mais moi, je connaissais Shanti Travel. Je savais qu'ils étaient bien. Donc, je savais que si un lecteur du blog trouvait l'information sur mon blog et réservé par l'agence, il allait être content. Donc ça, pour moi, c'était super important. J'aurais pu peut-être doubler ce chiffre, donc vendre mon lien 250 euros par mois à une autre agence, mais je ne la connaissais pas. Donc, est-ce que ça a un intérêt pour moi de vendre et d'emmener des clients vers une agence que je ne connaissais pas? Franchement, pas trop. Il y avait un risque, quoi. Et moi, j'avais envie que mon blog il soit vraiment en patate, que ce soit le meilleur blog sur l'Asie et que les gens aient rien à redire en ayant suivi mes conseils. C'était la même chose pour l'affiliation. Moi, je mettais des liens pour l'affiliation, mais je forçais pas trop. C'est-à-dire que je forçais un peu et je mettais plusieurs liens dans l'article, peut-être. Et à chaque fois qu'il y avait le nom, j'allais mettre le lien vers booking.com et pas le lien vers le site internet de l'hôtel, par exemple. Mais j'aurais pu en faire beaucoup plus. J'aurais pu écrire des articles comme « Où dormir à Hanoï ?»« Où dormir à Saigon ?»« Où dormir à Bangkok ?»« Où dormir à Hue ?»« Où dormir à Tokyo ?»« Où dormir à Kyoto ?» Donc ça, je ne l'ai pas vraiment fait. J'aurais pu bourrer ces articles pour essayer de référencer. Et donc les gens qui cherchaient des infos sur « Où dormir à Tokyo ?» ils seraient peut-être tombés sur l'article, mais je n'ai pas voulu le faire parce que je trouvais ça un peu dommage, honnêtement, pour les lecteurs classiques. On vient de parler des revenus d'un blog de voyage, donc à peu près 3400 euros à l'année, mais est-ce que vous savez qu'il y a des coûts? Est-ce que vous savez combien me coûte mon hébergeur tous les ans? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Faux! Faux! Encore faux. En gros, mon hébergeur, je suis chez la Rolls-Royce de l'hébergement WordPress sur Internet. Ça s'appelle WP Engine et ça coûte $1200 par an, donc à peu près 1000 euros. Donc déjà, vous enlevez 1000 euros de ces 3400 euros juste pour l'hébergement de mon site internet. Alors vous allez peut-être vous dire « Waouh, c'est super cher !» En fait, ouais, c'est cher parce que c'est aussi super bien. En 8 ans, mon blog, il n'y a jamais eu de problème. Je n'ai pas eu les serveurs qui ont brûlé comme chez OVH à Strasbourg et vous perdez votre site internet, vous ne savez pas trop quoi faire. WP Engine, c'est le top du top. C'est vraiment comme avoir une Rolls-Royce pour une voiture, quoi. Ça marche tout le temps, le moteur il est super, le confort il est super, on vous aide tout le temps. C'est exactement la même chose. J'ai choisi de payer cher pour ne pas avoir à m'en occuper et pour ne pas passer mes week-ends parfois avec un site qui ne fonctionne pas ou un site qui fonctionne mal. Donc ça déjà, vous enlevez 1000 euros sur les 3400 euros de revenus. Ensuite, le blog de voyage change ma façon de voyager. J'en ai déjà parlé. Ça me pousse à découvrir pas mal de choses. Et quand je découvre ces choses, souvent, ça a un coût. Alors, sans le blog, je pense par exemple que j'hésiterais à me payer parfois des tours en Jeep ou des tours avec des photographes ou ce genre de choses. Je vous prends un exemple tout bête. Lorsque j'étais à Mangla, dans le nord du Laos, d'ailleurs le Mangla Lodge, c'est un truc de dingue, un de mes endroits préférés en Asie, j'étais dans cet hôtel qui était vraiment superbe. D'ailleurs, j'étais invité, c'était un partenariat, mais ça, on en reparlera plus tard. Et il proposait une journée d'excursion donc pour des randonnées normales à pied. On partait du lodge à pied, on faisait une randonnée. Ça, je l'ai fait la seconde journée. Et la troisième journée, ils proposaient un tour en jeep qui était absolument incroyable dans des villages reculés, Aka, Hmong et... Ah, quelle était la dernière communauté? Je crois que c'était des Camus, un truc dans le genre. Bon, il y avait trois minorités différentes, c'était une journée exceptionnelle, mais il fallait payer une jeep pour toute la journée avec le chauffeur, le guide, la jeep et passer sur des terrains de malades. Il n'y avait aucune route. Et ça, ça m'a coûté, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était un peu plus de $200. Si j'avais pas eu de blog de voyage, j'aurais jamais payé pour cette journée. D'accord ? J'étais tout seul, j'aurais fait autre chose, mais pourtant, à cause du blog ou grâce au blog, ça dépend de votre point de vue, j'avais envie de tout tester, j'avais envie d'apporter un contenu vraiment génial pour mes lecteurs, j'avais envie qu'ils comprennent pourquoi j'avais adoré Mangla, et donc j'ai pas hésité à mettre le prix. Et là, je vous prends un exemple pour un tour en jeep, ça pourrait être pour plein d'autres trucs, je vais avoir tendance à me payer souvent de plus jolis hôtels quand je sais qu'ils sont intéressants, parce que j'ai envie de le découvrir, parce que je sais que c'est bien pour mes lecteurs. Un autre exemple, quand je suis allé à Hue, je me suis payé le Pilgrimage, qui est un beau 4 étoiles sympa dans la campagne. Donc ça, en termes d'expérience et en termes de coût, forcément, sur l'année, ça me pousse à dépenser. Alors, je vis des trucs de dingue, mais évidemment, ça a un coût. Autre coût important qui vient du blog, directement ou indirectement, ça dépend de votre point de vue, c'est le matériel photo. Puisque oui, j'adore la photo, et en fait, cette passion pour la photo est venue en même temps que le blog. Puisque grâce au blog, les gens me disent « Ah mais moi je viens pour ton blog pour les photos. Ah Brice, tes photos elles sont exceptionnelles. Ah Brice, on adore, on s'y croirait. » Donc moi en fait, ça me pousse à toujours avoir un matos de mieux en mieux. Et pour ceux qui connaissent un peu la photo, par exemple, moi j'ai deux boîtiers. J'ai un Sigma 24mm f1.4, donc c'est un objectif qui doit coûter peut-être 600 euros, un truc dans le genre. J'ai un 70-200 f2.8 de Canon, qui coûte peut-être 1500 euros. Bref, j'ai du matériel photo qui est exceptionnel. Pour ce que j'en fais honnêtement, j'ai du matériel photo qui est professionnel ou pas loin. Je pense que je pourrais presque shooter des mariages quoi, pour vous donner un ordre d'idée. Et pourtant, ça, c'est que pour le blog. Et j'adore la photo est liée au blog. Et donc, j'ai tendance à m'acheter du matériel quand ça casse et ce genre de choses. Quoi. Et donc là encore, c'est des coûts importants sur l'année qui viennent s'ajouter à l'hébergement et qui viennent s'ajouter aux expériences que je peux vivre. Sur l'année, je pense honnêtement que je suis kiff-kiff en termes de revenus, c'est-à-dire que je dépense autant que je gagne. Et quand je vous dis sur l'année, ça, c'était avant le Covid. Bah ouais, c'est important que je vous parle de coûts, parce que là, avec le Covid, en 2020, j'ai eu zéro de chiffre d'affaires. Zéro. Donc là, le blog me coûte les voyages et l'hébergement. D'accord ? Là, il me coûte vraiment de l'argent. C'est un truc dont il faut tenir compte, puisqu'évidemment, plus de publicité, les pays sont fermés et plus d'affiliation puisque les gens ne voyagent plus en Asie, donc ne réservent plus leurs hôtels. Et aussi, un autre point important, quand je vous parle d'affiliation, quand je vous parle de booking, quand je vous parle de sites internet comme ça, eux, ce n'est pas mes amis. Hein. Il y a quelques années, par exemple, Agoda, ils ont changé la façon dont ils calculaient le pourcentage pour l'affilié. Donc eux, ils ont dit en mode « Oui, oui, on rechange pour mieux recalculer, blablabla. » En gros, ça voulait dire « Bon, vous êtes gentils les mecs, mais vous avez plus 3% du chiffre d'affaires, maintenant vous avez 2%. » Donc encore une fois, baisse significative des revenus, hein, moins 33%. Ouais, c'est ça, moins 33%. Donc ouais, ça fait une somme importante, et même ça peut arriver pour certains sites de carrément abandonner l'affiliation. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'étais arrivé à NBRB et à Skyscanner. Moi, c'est pas des choses que je fais pas de l'affiliation avec ces sites, mais ça peut arriver. Vous avez une source de revenus sur l'année que vous estimez à 2000 euros, ensuite, votre partenaire, il change sa façon de calculer. Vous avez moins 33%, donc vous êtes plus qu'à 1400. Ouais, c'est bien ça, à 1400. 200 fois 3, 600, c'est ça. Plus je fais les calculs en live, histoire de ne pas me tromper. J'espère qu'il n'y a pas de prof de maths et qu'ils vont me mettre un coup de couteau. Et là, vous aviez plus que ces 1400 euros. Et là, on vous dit, ah ben en fait, on ne fait plus d'affiliation. Et donc là, pour vous, il faut en plus que vous changiez tous les liens. Imaginez-vous que vous passiez de booking à hotel.com. Okay, on prend un exemple vraiment bête. Ben en fait, il faut changer tous vos liens sur votre site internet. Donc, ça va vous prendre vraiment plusieurs jours de travail. Donc, rappelez-vous, des revenus pour un blog, oui. Quand il n'y a plus de voyages, que des coûts. Et en général, même lorsque vous êtes sur une période normale, donc hors Covid, il y a aussi pas mal de coûts. Certains ont des hébergeurs qui coûtent beaucoup moins cher, hein, évidemment. Je ne veux pas leur jeter la pierre. Je pense que moi, WP Engine, c'est cher, honnêtement, pour ce que c'est. Mais on paye cher et on a un service qui est absolument dingue. Donc, j'adore vraiment ça. Là, si vous êtes quelqu'un de sensé, vous devez peut-être vous dire bah « Attends, pourquoi il fait son blog alors ?» Il nous parle de revenus, il nous dit en gros qu'il ne gagne pas d'argent, tous ses revenus ils sont réinvestis dans le blog, soit parce que c'est de l'hébergement, soit parce que c'est des voyages, soit c'est dans le matériel photo. Pourquoi il fait ça? Justement, je suis content que vous me posiez la question à distance par cheminement de pensée, on va dire, puisque c'est le prochain point du podcast. Prochain arrêt, il te sert à quoi le blog? Et oublie pas de parler doucement, Brice, sinon ta mère va rien comprendre. Aïe, désolé maman, je sais que j'ai parlé trop vite à la fin, j'espère que t'as tout compris quand même. Bon bref, en gros le blog de voyage, je vous ai expliqué que je faisais pas ça pour l'argent, que je mettais pas beaucoup de publicité, et que tous les revenus que je gagnais, j'avais tendance à quasiment les réinvestir soit dans du matériel photo, soit dans les coûts directement. En fait, avoir un blog de voyage, pour moi, il y a énormément d'avantages, mais qui ne sont pas forcément en rapport avec l'argent. Le premier point, c'est qu'on est invité dans des hôtels ou dans des croisières de malades. Alors quand je dis invité, ce n'est pas que la croisière se décide un jour à m'envoyer un email, c'est moi qui vais la contacter, c'est moi qui vais échanger plein de mails, mais parfois, on vit quand même des trucs de ouf. Là, ça fait quelques années que je n'ai pas été invité dans un hôtel pour le blog, mais au début où j'étais au Vietnam, donc en 2016-2017, j'ai fait pas mal de fois de très beaux hôtels, je pense une petite dizaine de très beaux hôtels où j'ai été invité gratuitement et où j'ai pu vivre des trucs de dingue. Alors ces hôtels, évidemment, je les avais shortlistés. Hein. C'était des hôtels intéressants. Les lecteurs m'ont dit après qu'ils étaient géniaux, qu'ils avaient adoré. Mais on vit quand même des trucs de fou et on ne les paye pas. Et ça m'est arrivé une fois d'avoir un voyage complet où vraiment il y a eu un énorme impact grâce au blog. C'était un voyage au Laos de 3 semaines. Et en fait, j'avais contacté Secret Retreat, qui est un site de réservation en ligne, d'hébergement, de restaurant, de charme. Si vous ne connaissez pas ce site, allez le consulter, Secret Retreat. C'est un site qui est exceptionnel, que moi j'utilisais beaucoup personnellement avant. Et je me suis dit par hasard, ah bah contacte-les, pourquoi pas. Et j'ai pu vivre un voyage exceptionnel, il n'y a pas d'autre mot, au Laos. Mais ça, je vous en parlerai en saison 2 et je pense qu'on va même faire un double épisode parce que c'était un voyage de dingue entre les hôtels au bord du Mekong, les croisières sur le Mekong, des hôtels paumés qui appartenaient aux parents du premier président du Laos, hyper colonial, juste sublimissime. Donc rappelez-vous, le blogueur il va peut-être pas gagner d'argent, mais il vit aussi des trucs exceptionnels. Le deuxième point pour moi, qui va être le plus surprenant, ah merde, attendez, je vous la refais. Le deuxième point va vous surprendre. En fait, pour moi, c'est le CV. Parce que oui, je travaille dans l'industrie du tourisme, et si vous bossez aussi dans le voyage, dans le tourisme, vous connaissez sûrement mon blog, au moins si vous travaillez sur l'Asie. Puisque vous avez cherché à un moment une destination que vous ne connaissiez pas, et là vous êtes tombé sur mon blog. Et moi, je vous prends un exemple tout bête. Tout à l'heure, j'ai insisté sur la grande école. Pourtant, mon premier boulot, je l'ai trouvé grâce à mon blog. C'était Alex, le fondateur de Shanti Travel, qui m'avait contacté sur mon blog en me disant « Hey Brice, on est à la recherche de passionnés d'Asie, blablabla. » Et en fait, il ne savait pas que je faisais une grande école. D'ailleurs, j'étais en train de la terminer. J'étais en train d'écrire mon mémoire. Et il m'avait contacté sur le blog. Il s'en foutait de mes études. Il avait juste vu que j'étais un passionné d'Asie. Donc pour moi, c'est aussi important en termes de CV. Ça me permet d'être, entre guillemets, même des très gros guillemets, connu dans l'industrie du tourisme si tu bosses sur l'Asie. Donc ça, un point essentiel. Troisième point, c'est un kiff. D'accord ? J'adore documenter ce que je fais. Vous n'avez pas idée en fait du nombre de fois où moi je me retrouve, où je retrouve pardon, une information une minute. Donc ma femme me dit, mais t'es sûr qu'à Taïwan on avait dépensé autant qu'en Thaïlande ? Et moi, littéralement, vraiment, en 30 secondes, j'ai les deux articles, je compare les budgets. Où je retrouve quelle date ? Ah, je suis allé quand visiter le marché de Longxuyen ? Je ne me rappelle plus, c'était en mars ou c'était en février ? En 10 secondes, je retrouve la bonne information. Moi, j'adore ça, j'adore montrer mes photos, j'adore aider les gens. Et donc pour moi, c'est un pur plaisir, même après 8 ans. D'ailleurs, après 8 ans, c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast, pour apporter de la diversité à ce que je fais, parce que je trouve ça intéressant de me diversifier. Et écrire un blog et écrire la même chose pendant 20 ans, ça aurait peut-être été un peu chiant, donc je voulais avoir d'autres projets et je pense que le podcast rentre en plein dedans. Et pour moi, c'est aussi un énorme kiff de faire ce podcast, même si parfois c'est la galère. Et même si le podcast que vous écoutez actuellement, j'ai dû le réenregistrer plusieurs fois parce que il n'était pas facile à comprendre, c'était pas parfait, c'était pas ce que je souhaitais. Même si c'est un plaisir pour moi, j'ai envie qu'à la fin, le résultat soit cool et de me dire, si moi j'étais bloqué en Europe maintenant, est-ce qu'en écoutant ce podcast, je trouverais ça intéressant ? Si c'est oui, je le garde. Si c'est non, je le garde pas. D'ailleurs, en parlant du podcast, en fait, en 8 ans, j'ai appris énormément de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les tendances marketing, sur le référencement, sur comment héberger un site internet. Et maintenant, j'apprends plein de choses grâce au podcast. En 8 ans, il n'y a qu'un seul article que je regrette. C'est celui sur l'Anantara Mouiné, qui est un hôtel à Mouiné, qui est un hôtel vraiment exceptionnel, qui est un 4-5 étoiles. J'ai été invité pendant 2 ou 3 nuits, je ne sais plus, je crois 2 nuits, dans des villas privées avec piscine. Donc imaginez-vous, c'est un peu ce qu'on voit sur Instagram. Et pourtant, en quittant l'hôtel et en écrivant l'article après, je me suis dit, est-ce que si j'avais été avec ma famille sans limitation de budget, est-ce que je serais allé là-bas? Ah, franchement, je ne suis pas sûr. Vraiment, je ne suis pas sûr parce que j'avais aimé l'hôtel, hein, c'était cool, mais je trouvais ça un peu cher pour ce que c'était. Et puis, je ne sais pas, ça manquait d'âme par rapport à ce que je faisais d'habitude. Donc après, j'ai annulé tous mes partenariats. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais demandé un partenariat avec Anantara à Hoyan. Donc Anantara, c'est une chaîne d'hôtels très haut de gamme, voire de luxe. Et moi, je voulais aller dans leur hôtel à Hoyan. Par hasard, il y a eu un quiproquo avec leur service marketing. Ils ont voulu me dire que c'était OK. Ils m'ont jamais envoyé la confirmation. Et le jour où je devais venir, ils m'ont appelé en me disant « Hey Brice, vous venez ce soir du coup parce que vous n'avez pas fait votre check-in hier ?» Et moi, j'étais là « Mais what the fuck, personne ne m'a jamais dit que j'étais invité. » Donc, il y a eu un petit quiproquo. Le responsable marketing pour le groupe sur l'Asie m'a contacté et m'a dit « Ouais mec, je suis désolé de ce qui s'est passé. On t'invite dans tous les hôtels du groupe au Vietnam. » Donc là, toi, tu dis « Ouais, c'est génial. » En fait, j'en ai fait un. Et après, en écrivant l'article, je me suis dit « Putain, c'est pas vraiment… » Je me suis engagé. Je vais le faire, je vais expliquer moi ce que j'ai vécu, hein. C'est quand même un hôtel exceptionnel, hein. C'est la villa privée avec la piscine, c'est sublime. Mais il y avait un truc qui manquait, ça manquait d'âme, il manquait quelque chose à cet hôtel, donc en fait du coup derrière j'ai pas suivi et je n'ai fait que cet hôtel du groupe alors que j'étais invité dans d'autres hôtels super. Il y avait le Anantara à Hoyan où j'étais invité, il y avait le Avani à Quy Nhon, donc pareil on aurait pu aller à Quy Nhon avec madame, quasiment tout frais payé, mais je l'ai pas fait parce que ouais, vraiment, c'est pas ce que je voulais pour le blog au final. Ça m'est arrivé qu'une fois d'être invité dans un hôtel et de pas en faire un article, car ça s'est pas bien passé. L'hôtel était correct, il y avait pas de gros problèmes, mais j'y étais pendant la saison des pluies, donc il a plu tout le temps, les photos étaient immondes, il pleuvait des cordes non-stop, il y avait personne dans l'hôtel, on entendait les mouches voler, on pouvait pas se baigner dans la piscine parce qu'il faisait que pleuvoir, donc du coup, il y avait rien à raconter, j'ai pas fait d'article sur cet hôtel. C'est pas que l'hôtel était mauvais, c'est juste que je l'ai visité à un moment où il y avait un typhon qui passait. Donc forcément, difficile d'avoir quelque chose qui va bien rendre. Donc j'essaie d'être le plus honnête possible. Et pourtant, il y a souvent un retour de flamme. Enfin souvent, ça arrive. Et d'ailleurs, c'est le prochain point du podcast. Puisque là, vous allez vous marrer, c'est garanti. Prochain arrêt, Babylone et financer des projets qui en ont besoin dans des pays du tiers-monde. Est-ce que vous connaissez Babylone? Alors Babylone, c'est un site internet qui met en relation des programmes de microcrédit pour pas mal de pays en développement dans le monde. Donc sur Babylone, en fait, c'est l'équivalent d'un booking.com, mais pour donner de l'argent à des gens qui en ont besoin, tout simplement. Vous avez plein de pays différents, vous pouvez donner de l'argent pour des personnes, par exemple, qui ont besoin d'améliorer le stock dans leur magasin aux Philippines, des gens qui ont besoin d'acheter des outils ou des engrais au Kazakhstan, des gens qui ont besoin de X ou Y produits pour leur business en Amérique du Sud, en Afrique, et vous pouvez donner de l'argent. Alors moi, ce que je me suis dit, c'était il y a 4 ans maintenant, je me suis dit, OK, tous les revenus que j'ai par le blog, par l'affiliation, je vais les remettre dans ce site internet. Quels que soient les coûts que j'ai à côté, quel que soit si je m'achète un appareil photo, quel que soit, on s'en fout. Tout l'argent que je gagne, je vais le mettre sur babylone.fr et ça va aider les gens et ça va être génial. Au début, j'ai eu des retours exceptionnels. Donc plein de gens qui me disaient « Ouais, Brice, c'est génial, super, on ne connaissait pas le projet, on adhère complètement, c'est vraiment sympa. » Sauf qu'après quelques mois, je me suis fait défoncer. Il n'y a pas d'autre mot. Maman, désolé, mais il faut que j'utilise ce mot dans les commentaires. C'est très, 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 très dur à vivre. Lorsque vous recevez dans les commentaires des messages d'insultes, des messages de menaces. Au fil des années, maintenant ça fait 8 ans que j'ai le blog, je suis habitué à ce que tous les 6 mois il y en ait un, donc maintenant ça me fait marrer, et puis le commentaire que je vous ai déjà lu avec la personne qui voulait me casser les bras, je sais pas, je l'attends à un œil, ça se trouve il fait 1m50 et 40 kg, mais là c'était beaucoup de commentaires d'un coup, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais comment c'est pour les footballeurs, pour les artistes, pour les gens qui sont harcelés en ligne? Ça doit être une horreur, parce que moi j'en ai un tout petit peu, et déjà c'est difficile à vivre. Alors comment font ceux qui se font mais insulter non-stop sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, un peu partout? Je vous prends quelques commentaires que j'ai reçus sur le site donc, du projet avec Babylone. Ce n'était pas du tout un partenariat, Babylone ne m'avait pas contacté, moi je le faisais parce que je trouvais ça bien, mais ça n'a pas empêché quelques commentaires que je vous lis maintenant. Commentaire numéro 1. La plupart du temps, les personnes qui empruntent ont beaucoup de difficultés à rembourser et sont dans une situation encore pire qu'avant. Les gagnants sont les organismes prêteurs qui chargent des taux d'intérêt exorbitants et profitent de ces pauvres gens, comme les banques normales en somme. Commentaire numéro 2. Le don, tout simplement. Donc là, en fait, il voulait dire « au lieu de prêter, tu devrais te donner ». Commentaire numéro 3. Là, c'était un long commentaire sur Esther Duflo et sur les théories des besoins des populations agricoles. Mais pareil, assez hard pour Brice. Hein. Il n'a pas juste exposé sa théorie, il m'a aussi fait pas mal de remontrances. Commentaire numéro 4. J'ajouterai qu'étant donné que c'est un crédit et que tu récupères donc l'argent mis à disposition, l'aide est bien plus en ta faveur qu'en celle des personnes démunies que tu es censé soutenir par le biais du microcrédit dont tout le monde sait qu'ils sont inefficaces. Ironie du sort, point d'interrogation. Donc là, vous avez un peu tout. Vous avez l'expert qui est expert sur le foot, sur le microcrédit, sur les vaccins, toujours présent, toujours prêt à mettre des tacles en commentaire. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur un blog de voyage. Le mec qui veut que je fasse des dons, on ne sait pas comment. Je ne sais pas comment je pourrais donner de l'argent directement à des paysans pauvres dans le sud du Guatemala ou aux Philippines. On ne sait pas trop comment je pourrais trouver ces personnes. Je pense que ces personnes n'ont même pas accès à des comptes bancaires, tout simplement. Même chose pour la personne qui parlait d'Esther Duflo. Oui, je ne suis pas un expert en économie de la pauvreté, en développement agricole. J'essayais simplement d'aider et je ne trouvais pas ça si mal que ça de faire ce projet. Même si il y avait beaucoup de commentaires qui étaient gentils au début et qui m'encourageaient à le faire, au bout d'un moment, j'ai arrêté ce projet. Parce qu'en fait, les commentaires négatifs, même si c'est une fois par mois, moi, je ne suis pas un punching ball. Hein. Ce blog, c'est par plaisir que je le fais. D'accord ? Je passe 10 heures par semaine sur ce blog pour aider les gens, pour leur proposer un contenu différent, pour leur conseiller des destinations de voyage qu'ils ne connaissent pas, pour éviter qu'ils tombent dans des pièges classiques d'un voyage au Vietnam ou d'autres pays. Vous avez bien pu le voir grâce à ce podcast, dans quel état d'esprit je suis. Et du coup, recevoir ces commentaires hyper méchants, même si on se dit « ouais, c'est que des commentaires sur Internet, c'est moi ce que j'appelle les cow-boys de l'Internet, c'est-à-dire des mecs qui font rien du tout dans la vraie vie, mais sur Internet, ils se sentent pousser les ailes et ils parlent de tout en balançant des copier-coller de Wikipédia. » Mais au bout d'un moment, ça fait mal. Et en fait, du coup, j'ai arrêté ce projet. Je me suis dit « mais à quoi ça sert que moi, je dépense mon argent ?» Parce qu'en fait, tout l'argent que je récupérais par les prêts, je le remettais dans d'autres prêts. Hein. Faut pas croire que cet argent, je le récupérais après. Pourquoi je le ferais? Ça n'a aucun intérêt. Donc ça, n'oubliez pas, on est blogueur voyage, on a des avantages. Donc on peut vivre des trucs exceptionnels, mais il y a aussi tous les challenges qui viennent du monde de l'Internet. Quoi. Tous les mecs qui vous insultent, tous les mecs qui vous font des reproches. Et même si 99% des commentaires sont super, tous ceux qui me remercient dans les commentaires vraiment... du fond du cœur, vraiment du fond du cœur. C'est juste tellement agréable et ça motive tellement à continuer. Mais on garde souvent en tête les 1% de négatifs parce que eux, ils sont vraiment, vraiment choquants. Hey Brice, t'as pas parlé des autres blogs ? Je fais une petite digression rapide sur cet épisode du podcast pour vous parler des autres blogs. En fait, il est très difficile pour moi de répondre pour tous les blogs en général. Je connais quelques blogueurs, mais pas assez pour avoir un échantillon représentatif. N'oubliez pas qu'il y a des différences importantes pour des blogueurs qui font que des articles sur la France, par exemple, d'autres qui font que sur le Japon, d'autres qui sont au Congo, au Rwanda, ce genre de pays. C'est très difficile de donner des généralités d'un point de vue argent, d'un point de vue revenu, puisque ça dépend aussi de quel pays vous êtes l'expert, entre guillemets. Quelqu'un qui va réserver une semaine d'hôtel à Tokyo, évidemment, ça coûte beaucoup plus d'argent qu'une semaine pour un hôtel perdu au fin fond du Laos, d'accord ? Donc généralement, plus votre pays est développé, plus vous faites de l'argent, parce que les offices du tourisme ont de l'argent, par exemple, aussi, ils peuvent peut-être payer des blog trips ou ce genre de choses, mais aussi, plus il y a de concurrence, d'accord ? C'est pas parce que vous vous mettez demain à bloguer sur le Japon que vous allez arriver sur la première page de Google. Ne croyez pas à vos rêves, tout simplement. Donc je vais éviter de vous parler de blog en général et de vous donner des arguments. Juste un petit point que je voulais mentionner, le Vietnam, pourtant c'est un pays touristique, ils n'ont qu'un seul bureau office du tourisme en Europe qui vient juste d'être ouvert à Londres. Donc imaginez-vous, quand est-ce que vont arriver les blog trips ou quand est-ce qu'ils vont se mettre à analyser leur marché pour contacter les gros blogueurs voyage au Vietnam, pas forcément des Français, pas forcément moi, mais même Vietnam Coracle dont j'ai déjà parlé sur ce podcast, qui est un très gros blog de voyage sur le Vietnam, on est à des années-lumière par rapport à l'Office du tourisme de Noirmoutier ou ce genre de choses, qui, eux, ont une vraie organisation depuis des années, ont un projet clair de mettre en avant leur patrimoine, leur culture, ont des budgets. Enfin bref, c'est beaucoup plus simple dans des pays développés généralement parce que tout est beaucoup plus organisé. D'ailleurs, vous pourriez aussi vous demander combien ça me coûte le podcast. En fait, le podcast, pour l'instant, il ne me coûte rien du tout parce que je suis hébergé chez Anchor.fr, donc A-N-C-H-O-R.fm, qui appartient à Spotify. Ça ne me coûte aucun argent. Ça me rapporte aussi zéro puisque à l'heure actuelle, je n'ai pas mis de pub encore sur les podcasts. Peut-être que ça va arriver. Peut-être que parfois, vous avez des pubs si vous regardez sur Spotify et que vous n'avez pas de compte premium. Mais ça, ce n'est pas pour moi. L'argent, il est pour Spotify. Donc en gros, ça ne me coûte pas d'argent du tout. Conclusion, la brise, prochain arrêt, terminus, il faut terminer la conclusion, conclue, c'est un peu long. J'espère de tout mon cœur que ce podcast a été clair pour vous. J'espère qu'il vous a appris des choses sur l'univers d'un blog de voyage, aussi bien les points positifs que les points négatifs, parce que oui, tout n'est pas rose partout. Je vous ai beaucoup parlé de mon blog de voyage et je trouvais ça aussi très intéressant de vous donner des chiffres, c'est-à-dire combien d'argent je gagne. Généralement, les gens disent « assez pour vivre » ou « ah désolé, je sais pas ». Je trouvais ça cool de vous parler des revenus et aussi des coûts, de combien de temps ça prend toutes les semaines, des différentes demandes de partenariat qu'on peut recevoir. N'oubliez pas, moi j'ai un blog qui était plutôt important avant le Covid. 400 000 visiteurs uniques sur l'année, c'est quand même pas mal. En revanche, je ne suis pas un influenceur voyage en général avec des comptes Instagram avec des centaines de milliers de personnes, du TikTok, du YouTube. Ça, je ne fais pas du tout. Je fais aussi une petite digression, mais si ce genre de contenu vous intéresse, donc qu'est-ce que c'est un blog de voyage en Asie et en gros, quel est le quotidien de ce blogueur voyage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je pourrais faire d'autres podcasts sur des thèmes, on va dire, assez similaires. Je pourrais par exemple, vous parlez du tourisme en Asie ou ce genre de choses qui ne sont pas directement en rapport avec un pays, avec une destination, mais plutôt sur le tourisme ou l'univers du voyage en général en Asie. Donc dites-le moi si ça vous intéresse et il y en aura peut-être sûrement dans la saison 2. J'espère que ce podcast vous a plu, je vous l'ai déjà dit 5 fois. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, sur n'importe quelle plateforme vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est un peu bête à dire, mais si ce podcast vous l'appréciez, n'hésitez pas à le partager à vos amis. Pour moi, le bouche à oreille, c'est super important pour continuer de faire grandir ce podcast. J'en ai besoin, notamment pour la saison 2. C'est à peu près tout. Je pense que maintenant, vous êtes habitués, puisque le prochain podcast arrivera à la prochaine pleine lune. C'est bien ça. Donc, je vais la garder au montage, celle-là. Dans 29 jours, c'est bien ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.